Radio Canu présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Vertige de la douceur. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Combray, un village bien ordinaire à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Chartres, se trouve une vieille maison du siècle dernier au fond d'un parc. La maison est 2 étages et est habitée par la famille Lagrange. Il est 20h, nous sommes en juin, il fait encore jour. Rosemary Lagrange, la femme de Philippe, est assise dans un coin du salon, droite sur sa chaise, un châle marine sur sa robe beige. Elle a toujours froid, Rosemary. Les cheveux blonds, mi-longs, bien coiffés, le visage de porcelaine, elle fait moins de 25 ans. Rosemary, dans ce salon rococo, attend les heures passées, car depuis l'accident de l'année dernière, elle n'a plus le droit de rien faire. La porte du salon vient de s'ouvrir. C'est sa belle-mère. Il est 20h20 et comme tous les soirs, elle vient lui apporter ses médicaments. Un verre d'eau et deux comprimés. Mathilde de la Grange est de taille moyenne, mince, les cheveux gris qui ongulent, le visage sec. Elle porte une jupe marine et un chemisier blanc. Elle tend le verre et les comprimés à Rosemary.
Tenez !
Tout à coup, la porte grince. Elle se retourne et voit un chat noir. Mathilde crie.
Philippe, va chercher le chat. Il ne faut pas qu'il traîne ici.
Philippe arrive. Il prend le chat dans ses bras et le caresse. Philippe est grand, mince, le visage poupon, les cheveux châtains. Il porte une veste de laine marine et un pantalon de la même couleur. Il regarde sa femme.
Vous semblez aller mieux.
Il lui sourit. Je veux mettre le chat à l'office. Rosemary, vous verrez. Vous allez vite guérir. Mathilde haute les épaules et dit.
Ça servira à quoi ? Qu'elle guérisse.
Elle est bien ainsi.
Sans souci.
Hein ? N'est-ce pas, Rosemary ? Vous avez pris vos comprimés ?
Donnez-moi le verre.
Rosemary le lui tend.
Allez, venez, Philippe. Dans une heure, nous viendrons la chercher pour la coucher.
Et ils sortent tous deux de la pièce. Rosemary se lève, va à la fenêtre pour voir dehors. Il fait encore soleil et devant le perron se trouve la voiture de Philippe, une voiture de touriste rouge. Rosemary quitte son châle, le met sur la chaise et se dirige vers la sortie de la pièce. Dans le couloir, il n'y a personne. Longe le couloir en évitant de faire du bruit. Elle entend à l'étage plus bas son mari et sa belle-mère qui sont dans la salle à manger. Elle descend précipitamment les escaliers de bois. Son corps bat très fort et se demande si c'est bien ce qu'elle fait. Mais si elle ne le fait pas, une voix lui dit qu'elle le regretterait toujours. Enfin, au rez-de-chaussée, passer devant le service sans être vu. Sur le porte-manteau, la veste de Philippe met toujours les clés de sa voiture dans une de ses poches. Vite, une main dans chaque poche. Enfin, voilà les clés de la belle voiture rouge. Sortons par le perron. Personne. La belle-mère a oublié de la faire garder. Ou croit qu'elle va mieux. La clé est dans la main. Il faut faire vite ou tout est perdu. Ou elle réussit ou c'est l'asile à vie. Vite, la clé dans la serrure. Tournez. La portière s'ouvre. Entrez. Et mettre en route. Et vite, 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 elle quitte le parc en un rien de temps et se trouve sur la route. Et roule, roule, droit devant elle, droit devant elle. Ce n'est qu'après une heure de route qu'elle se détend et voit que le soir a commencé à tomber. Tout à coup, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais elle se sent incapable d'y retourner. Tant pis, l'on verra bien. Elle ouvre le vide-poche de la voiture et trouve un paquet de Marlboro. Elle en prend une et l'allume avec le fume-cigarette. Cela la fait tousser. Il y a trop longtemps qu'elle n'a pas fumé. Mais petit à petit, elle y prend goût. La voiture file, file. Elle a retrouvé ses réflexes. Voilà une semaine qu'elle ne prend plus ses calmants. Une heure plus tard, elle se sent lasse. Arrête la voiture en pleine campagne. Et essaye de dormir. La nuit est tombée définitivement. Tout est calme. Coup, elle est réveillée par un bruit de moto. Qui passe devant elle. Qui file à vive allure. Et s'est arrêté net devant un arbre. Il a freiné tellement vite que ça a éjecté le motard hors de la moto. Rosemary, surprise, sort de voiture et accourt vers le motard qui est toujours à terre. Elle se penche vers lui. Vous n'avez rien ? Vous n'avez rien, monsieur ? Il se soulève et dit. Rien. Je ne suis qu'un lâche. Elle regarde la moto qui est à terre et dit « Pourquoi ? Vous l'avez fait exprès ?» Le jeune homme se lève en titubant. « C'est mes affaires. Ce sont tous nos affaires. » Elle voit qu'il va tomber. Elle le maintient à l'épaule. « Je vous amène jusqu'à la voiture si vous voulez. » Vous allez où ? Je sais pas où vous voulez. Fais-vous de la tête et dis. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Elle le fait asseoir à l'avant de la voiture. Je lis voiture. Elle s'assoit. Il a quitté son casque de motard, porte une chemise blanche et un jean. Il est blond, les cheveux légèrement bouclés. Yeux bleus, visage encore enfant et semble avoir dans les 17 ans. Elle lui demande « Vous appelez comment ?»« Frédéric et vous ?»« Rosemary. » Elle met la voiture en route. Elle demande « Nous allons où ?» Il dit « Je ne sais pas. » Elle dit alors « Droit devant nous. » Pendant qu'elle conduit, il la regarde mieux et se dit que c'est une fille de rêve dans une voiture de rêve. Il lui demande « Que faites-vous seul sur les routes ?»« Cela ne vous regarde pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai pas d'argent. Ça n'a pas d'importance, moi j'en ai un peu. » Ils ont encore roulé 2 heures, puis... Puis, elle s'est sentie fatiguée. Il lui a dit « Voyez là-bas, ça allait d'être une grange abandonnée. Allons nous y reposer. » La cabane est en plein milieu d'un champ. Elle arrête la voiture devant. Vers la porte, la pousse, ils entrent, éclairent avec un briquet, voient de la paille, vont s'y allonger. Au bout d'un moment, comme ils ont froid, ils font du feu devant la maison. En prenant un peu de paille pour le feu, ils trouvent un petit chat gris, le prend et le mène à Rosemary qui est assise devant le feu. « Tiens, regarde, j'ai trouvé un chat. » Il le lui tend, elle recule. « Tu n'aimes pas les chats? Pourtant c'est gentil. » S'assoit à côté d'elle, tout en caressant le chat sur ses genoux. « Moi, dit-il, j'aime mieux les animaux que les hommes. Il n'y a qu'une personne que j'aimais plus que tout au monde. Cet imbécile, il m'a trahi. Une vraie pute. J'ai cogné pour qu'il me reste fidèle. Puis, j'ai mis le feu à la grange. » Comme celle-là. Il n'a pas dû sentir les flammes. Il avait reçu un coup sur la nuque. Un coup de barre de fer. C'est pour cela que je voulais mourir en moto. Mais je suis trop lâche. Maintenant, je suis avec vous. Tout en regardant le feu, il continue à caresser le chat. Rosemary regarde les mains. Il caresse le chat. Thank you. puis s'est endormie et a lâché le chat. La fraîcheur du matin l'a réveillé, et la première chose qu'il voit, c'est Rosemary jetant dans un flamme le corps inanimé du chat. Il se lève et va vers elle. « Pourquoi tu l'as brûlé ? Il était mort. Mort de quoi ?» Elle hausse ses épaules. « Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut faire ?» Ils regardent devant eux. Le jour commence à se lever et montre la voile tout rouge au milieu d'un champ de luzerne abandonné. Cette vision leur donne envie de partir. Elle dit « J'ai faim, allons !» Ont pris la route et sont partis. Ils se sont arrêtés sur la place d'un petit village, sont entrés dans un café-tabac, ont commandé au patron un petit déjeuner. C'est lui qui a payé. Une fois pris leur petit déjeuner, ils se sentaient bien, unis pour toujours. En sortant du café, ils ne lui ont même pas demandé où ils allaient. Qu'importe, il va où il va. Il a à ses côtés une fille de rêve et une voiture rouge. Il a tout oublié. Et elle, avec son visage lisse de porcelaine, oui, son visage lisse de porcelaine, que cache-t-elle ? Emmène-t-elle avec elle son passé ? Elle a mis la voiture en route et file droit devant elle. Le hasard les a menés à Paris. Et comme il faut bien s'arrêter un jour et que l'argent manque, alors pourquoi pas Paris? Une grande ville, c'est plus facile pour se cacher et rester anonyme. Frédéric n'a plus d'argent. Se sont arrêtés à l'île de la Cité, sont allés dans un bar. Et tout en buvant son café, il lui demande « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Et soupire et dit « Faire en sorte de se procurer de l'argent en travaillant ?» Faisons faire les petites annonces. Il demande au garçon un journal. Il parcourt les annonces.
Avec Régine, la belle-sœur. Et là, il ne tronche pas possible.
Après une semaine où ils ont couché dans la voiture et mangé des sandwichs, il a trouvé une place de peintre en bâtiment et elle devant d'eux chez un fripier. Après avoir eu tous deux leur première paye, ils ont loué dans un vieil immeuble un deux pièces avec soldo. Le propriétaire a tout de même accepté de lui louer malgré qu'elle n'ait pas de papier en doublant le prix du loyer. Tout comme le patron du magasin en le faisant travailler au noir. Petit à petit, la vie à deux se fait, mais malgré qu'il la trouve très bien, ils vivent comme frère et sœur. Lui n'ose pas la toucher, elle l'intimide trop, et quant à elle, elle n'y pense même pas. Le temps passe tranquille. En dehors du travail, ils sortent ensemble, vont au cinéma, au restaurant. Frédéric est très heureux et sans oublier cette histoire passée. Et elle aussi, mais on ne sait pas, avec son visage de porcelaine. Un matin, alors que Frédéric est parti, l'on sonne à la porte. Elle va ouvrir. C'est une femme de taille moyenne avec un bébé dans les bras. Excusez-moi de vous déranger, je suis la voisine de palier. Est-ce que vous travaillez ce matin? Non? Ah, c'est bien! Je peux vous demander un service? Ma nourrice est malade, est-ce que vous pouvez garder Billy jusqu'à midi? Mais, ah, merci! La mère lui met l'enfant dans les bras avec un sac. « Excusez-moi, mais je suis en retard pour mon travail. J'ai tout mis dans le sac. » Et elle court en descendant les escaliers. Rosemary, tremblante, paniquée, regarde le bébé. Elle entre et ferme la porte de chez elle. Que je vais en faire? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Elle va au milieu de la pièce pour poser le bébé sur un fauteuil. Deux heures plus tard, Frédéric entre. Et voit Rosemary qui tient l'enfant par les pieds. Il est nu. Elle lui donne la fessée. L'enfant est tout violet et pleure. Le sang lui monte à la tête. Il se sent mal. Frédéric arrive vers Rosemary en courant. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est mou. Je t'en prie, enlève-le-moi. Frédéric prend le bébé et le berce. Rosemary s'assoit effondrée.
Qu'est-ce que tu faisais avec cet enfant ?
Rien. Je ne supporte pas ce qui est fragile, ce qui est mou.
Tu es complètement folle. L'enfant s'est calmé. À qui est-il ?
À la voisine de palier. Elle vient le prendre à midi.
Frédéric le regarde et dit :
Il a froid. Il faut l'habiller.
Il voit les vêtements sur une chaise. Pose l'enfant sur la table et l'habille. Ensuite, il le couche sur le lit et revient vers Rosemary. Il voit qu'elle tremble toute. Il s'assoit à côté d'elle et la prend dans ses bras pour se mettre dans ses états. Qu'est-il arrivé ?
J'ai paniqué pour le changer. Je ne supportais pas la voir dans mes bras. J'ai paniqué.
Je comprends. C'est la première fois que tu avais un enfant dans les bras.
Après cet incident, la vie a repris. Rosemary est douce, prévenante. Mais Frédéric s'aperçoit, c'est que si un animal s'approche d'elle et essaye de lui prouver son affection, elle panique. Pour lui aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il s'approche trop près d'elle. Quelquefois, pour aller plus vite, le matin, pour se préparer, elle se promène nue devant Frédéric et cela ne la gêne pas. Lui, Frédéric, est troublé, mais il le cache. La nuit, ils dorment dans la même chambre, mais avec deux lits différents. Il la désire, oui, mais comme une chose que l'on ne peut avoir. Alors, pour se calmer, dans la nuit, il s'enfonce dans l'évêché pour se masturber. Cela le calme un peu et lui permet de trouver le sommeil. C'est lui qui décide de tout, de ce que l'on va manger, des achats et même du jour du linge. Ils se sont très bien intégrés dans le quartier, font le marché ensemble et vont chez les petits commerçants. Frédéric a presque oublié qu'ils sont dans l'inégalité. Mais laquelle ? Il ne sait même pas s'il est recherché par la police. Les journaux ne parlent de rien. Il est vrai que ce sont ceux de Paris. Il aimerait savoir s'il est recherché ou non, mais il n'ose pas. Un soir, il en parle à Rosemary. Ils sont assis à table à dîner.
Je ne m'en vais tout de même pas aller au commissariat et leur dire « J'ai tué mon cousin et j'aimerais savoir si vous me recherchiez parce que j'aimerais vivre d'une façon légale et normale. » Elle sourit et dit « Je vois la tête du flic. Non, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, on est pas mal ainsi, non ?»
Elle se lève pour desservir.
Il la regarde et dit « Oui, mais ça risque de ne pas durer. Et puis, si on veut plus me donner du travail ou nous loger, que ferons-nous ?
Et on risque d'être dénoncé. » Elle lui demande « Tu veux un café ?
Non, merci. »
Il la regarde desservir.
Et lui dit, bien sûr, toi tu ne risques rien, on ne te recherche pas. Et tu es majeur. Mais au fait, que faisais-tu avant que nous rencontrions ? Moi? Oui, toi.
Il lui prend la main pour qu'elle s'arrête de nettoyer la table.
Lâche mes mains, je n'aime pas que l'on me touche.
Il la lâche.
D'où viens-tu? Que faisais-tu?
Elle hausse ses épaules. Je travaillais chez une personne âgée, très pénible,
dans une vieille maison, bien triste.
Alors je suis partie, sans rien dire.
Tu étais bonne?
Oui. Elle hausse ses épaules.
Bonne avec une voiture comme ça?
Elle rougit, baisse la tête. Je l'ai volée au fils de la patronne.
Alors, nous sommes tous deux en l'illégalité?
Oui.
Nous sommes en fuite?
Il la regarde et lui dit.
Toi, tu peux rentrer dans l'égalité en rendant la voiture, tandis que moi, j'ai tué. Et en plus, je suis mineur.
Il se lève pour aller vers la fenêtre.
Puis regarde la rue la nuit et dit « C'est étrange, des fois je n'y pense pas, et lorsque j'y pense, j'ai l'impression que c'est une deuxième vie que je mène en ce moment. »
Elle s'approche derrière lui
et lui dit « Pourquoi as-tu tué ton cousin ?» C'était une autre vie, je voulais que l'on soit toujours ensemble. Lui ne voulait pas. C'est pour être avec lui toujours que je l'ai tué. Mais je voulais aller le rejoindre. J'ai été lâche. Je n'ai pas osé faire le voyage. C'est mieux ainsi. Je t'ai rencontrée, belle, lumineuse, secrète. Tu es toujours belle, lumineuse et secrète. C'est pour cela que je t'aime et que j'oublie qui j'ai été, qui j'ai été.
Un après-midi, qu'ils sont tous deux dans l'appartement, on sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est une voisine, une petite grosse femme de 50 ans, les cheveux gris noirs avec des lunettes. Elle porte un blouson en nylon bleu et à fleurs vertes et tient à la main une feuille et un stylo à billes.
« Bonjour monsieur, je suis Madame Robert du premier. Je m'excuse de vous déranger, mais je passe pour faire signer une pétition pour que la police puisse faire quelque chose, c'est à cause des chats. Cela fait 5 chats. Que l'on a trouvé étranglé dans la rue. Alors, vous comprenez, il faut faire quelque chose pour que ce sadique puisse être arrêté. Enfin, quand je dis il faut, c'est la police qui doit faire quelque chose. Et puis, vous savez, si un homme n'aime pas les animaux, il n'aime pas les humains non plus. Et puis, s'il peut s'attaquer aux femmes aussi, des sadiques, ça existe. Moi... Je n'ose plus sortir de chez moi. Alors voilà, si vous pouviez signer la pétition pour que la police puisse arrêter ce fou furieux qui s'attaque aux chats.
Elle lui tend la feuille et le stylo. Il regarde Rosemary.
Qu'est-ce qu'on fait?
Elle rougit et hausse ses épaules. La femme dit,
la petite dame peut aussi signer.
Rosemary s'approche d'eux pour signer. Ils signent tous deux et rendent le papier.
Merci, monsieur, dame.
Et Frédéric ferme la porte.
Les jours, les mois passent. Nous sommes en hiver et il fait très froid. Ils ont tout juste chaud dans leur petit appartement. Ils sont chauffés par un vieux poêle à charbon. Pour faire des économies, ils y brûlent de vieux journaux. Les fenêtres sont givrées. Ils se couvrent de pulls, foulards. Un matin, Frédéric trouve
Sur le rebord de la fenêtre, un petit moineau grelottant de froid. Il le met dans une boîte à chaussures avec du coton dedans. Elle lui demande « Pourquoi ? Il a froid, il serait mort. Nous le relâcherons dès qu'il fera plus chaud. » Dans la soirée, lorsqu'il revient, il ne trouve pas le moineau. « Où tu l'as mise ?»«
Il est mort, alors j'ai jeté. » »«
Comment il est mort ?»«
Je ne sais pas, moi, il ne bougeait plus, voilà. »
Il hausse les épaules. « À chaque fois, c'est la même chose. »«
Je suis pour rien, moi. »
Il hausse les épaules.
« Bien sûr. »
Soir, il entre, grelottant, gelé. Elle voit qu'il n'est pas bien. Elle accourt vers lui.
Qu'y as-tu ? Je ne sais pas. Je crois que j'ai attrapé la fièvre.
Elle lui quitte sa veste, la met sur une chaise.
Tu veux que te coucher ? Je vais t'aider. J'ai froid, très froid.
Il grelotte. Elle le mène dans la chambre. Ouvre son lit. Il enlève son pull, déboutonne sa chemise et lui tire son pantalon. Il se trouve en slip et en maillot de corps. Elle l'allonge sur le lit et le couvre.
Ça va mieux ?
J'ai froid. Attends, je vais te frictionner avec de l'eau de Cologne. Elle sort de la pièce. Pour aller dans la salle d'eau, chercher de l'eau de Cologne. Elle revient avec un flacon. Se penche vers lui.
Chut, j'ai oublié le gant. Tant pis, je te frictionnerai avec la main.
Elle soulève la couverture et le maillot de corps. Apparaît une poitrine lisse et blanche. Elle prend son flacon. L'ouvre, met sur sa main de l'eau de Cologne et passe sur la poitrine. Elle est troublée par la douceur de la peau. Lui sent au début un grand froid, puis le frottement et l'eau de Cologne le chauffe. La bonne odeur lui fait aussi du bien. Cela l'enivre. La fièvre, la voir penchée sur lui. Il est tellement enivré. Et puis, cette main qui le caresse, sa main à elle. Pris de vertige, il se penche sur son visage et d'un geste brusque, il l'embrasse au hasard sur le visage. Surprise ? Elle ne se défend pas. De plus en plus fougueusement, il l'allonge et s'allonge sur elle. Il l'embrasse sur les lèvres. Elle a lâché la bouteille qui tombe à terre. L'odeur les enivre. Il l'embrasse et la caresse. Elle se laisse faire, lui touche ses seins à travers sa robe, se soulève et la déshabille. De beaux seins blancs apparaissent. Il les baise, elle se laisse faire. Apeurée, paniquée, elle se laisse faire. Elle ne sait comment se dégager, car elle a soudain peur de le toucher. Tout à l'heure, ce n'était pas pareil, c'était comme son frère. Il lui retire son slip, elle est nue. Il quitte le sien et... Puis, elle le regarde dormir près d'elle. Elle lui caresse les cheveux, ils sont doux, cela la trouble. Tout à l'heure, tout était dur en lui. Maintenant qu'il dort, tout est doux. Même son sexe semble mou. Cela la trouble et la gêne et la dégoûte. Caresse encore les cheveux, puis la poitrine, les cuisses. Tout est doux, chaud. Elle ne le supporte pas. C'est trop dégoûtant. Il tire les cheveux, ne réagit pas. Elle se lève d'un coup. Dort de la chambre nue. La pièce est baignée de lumière. Elle revient dans la chambre. Il est toujours nu comme elle, mais il est sur le lit encore, à dormir. Elle s'approche de lui. Lève au-dessus de lui un couteau de cuisine et l'enfonce dans la poitrine. Elle a sorti le couteau qui est tombé à terre. Cela a été rapide. Il n'a pas pu réagir. Mort sur le coup. Elle regarde le corps. De colère, de dépit, contre lui, elle tape du pied. C'est ta faute aussi. Tout ce qui est doux, mou, me donne le frisson. Il faut que j'y enfonce quelque chose. Puis, elle prend ses affaires à terre et sort de la chambre. S'habille et quitte l'appartement. Dehors, il gèle, le ciel est bleu. Elle entre dans la voiture qui est garée en bas de l'immeuble. Et file, file, droit devant elle. Tard la gêne pour conduire, elle veut l'éviter, et... Rosemary est au salon, assise dans un fauteuil, une jambe dans le plâtre, posée sur un coussin. Elle voit de la fenêtre la neige tomber sur la campagne. Il fait nuit. Un feu trépite dans la cheminée. Son mari et sa belle-mère sont assis, l'un en face de l'autre, sur des fauteuils un peu plus loin. La belle-mère tricote, le mari fume la pipe. Elle dit
« On ne sait toujours pas ce qu'elle a fait durant tous ces mois. Où elle est partie ?»«
C'est peut-être mieux ainsi, »
dit le mari.
« Elle a dû rouler. Mais comment se faisait-elle pour se procurer de l'argent ?»«
Vaut mieux qu'on ne le sache pas. »
Qu'allons-nous en faire?
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour elle.
Tout cela est de la faute de ton père. C'est lui qui l'a rendue folle.
Tout ceci est une vieille histoire.
Non, pas pour elle. La peur, ça ne se guérit pas. La preuve, depuis ce temps, c'est ton père qui l'a violée et engrossée. Une fille au père, tu te rends compte du scandale? Pour arranger les choses, tu as eu la bonté de te marier avec elle.
Ce n'est pas par bonté, je l'aimais déjà.
Qu'importe, tu t'es marié avec elle pour éviter le scandale. Elle a fait une fausse couche et est devenue folle. Elle étranglait les chats et a tenté à la vie de ton père. Elle a voulu le poignarder. Il a pris peur et a eu une crise cardiaque, dont il en est mort.
Pourquoi parles-tu toujours de ces vieilles choses?
Parce qu'elle est toujours là, malade, et qu'il faut constamment la surveiller pour éviter qu'elle ne fasse de bêtises. Voilà pourquoi je parle toujours de ces choses. Tu verras un jour, elle nous tuera.
Mais non.
Pourquoi ne veux-tu pas qu'on la mette en maison?
Parce que ils chercheront à connaître les origines de son mal.
Et alors, les médecins ont entendu les secrets de famille. De toute façon, ils n'ont pas le droit de dévoiler.
Qui sait, de toute façon, elle ne risque pas de nous faire faux bond avec son plâtre.
Oui, mais après,
nous verrons.
Tu l'aimes toujours?
Oui, j'attendrai le temps qu'il faudra pour qu'elle guérisse. Tu sais, elle n'a jamais été vraiment ma femme. Elle ne supporte pas les attouchements. Tout ça est la faute de père. Et c'est lui qu'on aurait dû enfermer. Elle aurait peut-être guéri. Si on avait puni son agresseur, jugé. Peut-être c'est ça qui la tourmente. Et si on le dénonçait maintenant?
Un meurtre, tu n'y penses pas. Paix à son âme, mon fils.
Et aux vivants, leur âme, n'ont pas le droit d'être à paix.
On est sur terre pour souffrir, mon fils.
Si tu crois, si tu avais été un peu moins bigote, peut-être que père aurait été un peu moins coureur et détraqué.
Voilà. Que ça va être de ma faute maintenant.
C'est la faute de personne et de tous. Rosemary était très belle. Moi, très sérieux. Mais trop timide. Cela fait un mort, une veuve, une folle, une veuve et un mari. Après 2 ans de mariage, encore vierge.
Il faut la coucher. Elle a sommeil. Tu viens m'aider?
Ils se lèvent tous deux. Levée du fauteuil Rosemary, elle l'a amenée dans sa chambre. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Vertige de la douceur. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.